universelle.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, je vous retrouve dans le cadre de l'Amérique et vous. On parlera du réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis. Mais d'abord, un point de l'actualité. Situation toujours tendue au Gabon où les activités sont perturbées par la grève des employés du secteur pétrolier. C'est dans ce contexte que le Front uni de l'opposition pour l'alternance se propose de tenir un grand meeting demain à Libreville. Pour le porte-parole de la présidence gabonaise Alain-Claude Bilié-Binzé, cette coalition veut appeler à l'insurrection populaire. Entre-temps, le calme est revenu à l'université Omar Bongo de Libreville, théâtre hier de heurts entre étudiants et forces de sécurité pour faire le point. Timothée Donangmaï a joint notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
La situation à l'UOB, donc à l'université Omar Bongo, à Libreville, est revenue à la normale aujourd'hui. Donc après des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux étudiants, des étudiants qui réclamaient la libération de leur collègue Firmin Olo, qui est arrêté depuis juillet, accusé d'avoir incendié des bâtiments administratifs. Au cours des échauffourées, il y a plusieurs étudiants, selon plusieurs sources, qui ont été arrêtés sur l'ordre du procureur de Libreville.
Ces incidents surviennent dans un contexte de grogne sociale au Gabon. Qu'en est-il?
Il faut signaler en fait que la grogne sociale touche plusieurs secteurs. Donc il y a des secteurs clés tels que le pétrole qui est touché et crée des désagréments qui créent des désagréments au sein de la population. Donc du coup, la vie tourne au ralenti à Libreville. Les grèves se généralisent partout, dans tous les secteurs. Le gouvernement essaie de provoquer les syndicats pour essayer un peu de juguler la situation.
Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani, joint à Libreville. Malgré de vives protestations, le président kenyan Uhuru Kenyatta a promulgué aujourd'hui une nouvelle loi controversée sur la sécurité. Selon l'AFP, l'opposition a tenté hier de bloquer le vote de cette loi. La nouvelle loi porte notamment de 80 à 360 jours la durée de garde à vue des suspects d'actes terroristes, allonge les peines de prison et facilite les écoutes téléphoniques. Les journalistes qui gênent l'enquête ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme sont passibles de 3 ans de prison, de même que ceux qui publient des images de victimes d'attaques terroristes sans l'accord de la police. Les 4 anciens présidents malgaches et l'actuel chef de l'État se sont rencontrés ce vendredi pour la première fois. Le but, entamer le processus de réconciliation nationale attendu depuis longtemps dans ce pays malmené par de nombreuses crises politiques. Nicolas Pineau.
Oui, c'est une réunion à huis clos inédite qui s'est ouverte dans un hôtel près de l'aéroport de Tananarive. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar a donc réussi son pari, réunir les 4 anciens présidents Albert Zafi, Didier Ratsirak, Marc Ravalomanan et Ange Radzoel autour d'une même table. Sans oublier l'actuel chef de l'État malgache, Eri Rajaona Rimampianina. Pour l'occasion, Marc Ravalomanan a été autorisé à quitter sa résidence du nord du pays. L'ancien président arrivé en hélicoptère et escorté par des militaires. Depuis sa chute en 2009, la réconciliation est difficile dans la grande île, malgré la signature en 2011 d'une feuille de route de sortie de crise. Le grand point d'interrogation de ces discussions concerne évidemment le statut juridique de Ravalomanan, condamné 3 fois par contumace sous le régime d'Ange Radzoel, notamment aux travaux forcés à perpétuité. L'ancien dirigeant n'a jamais reconnu la valeur juridique de ses condamnations. Il se dit désormais prêt à comparaître devant une cour malgache pour répondre des accusations contre lui.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les officiels américains lient publiquement maintenant la Corée du Nord au piratage massif de Sony Pictures. Le FBI a annoncé aujourd'hui avoir assez d'informations pour conclure que le gouvernement de Pyongyang est responsable de cet acte et la police fédérale américaine a dit être profondément préoccupée. Et puis, le président Obama parle en ce moment. Il est sur tous les écrans de télévision. Le président tient sa dernière conférence de presse de l'année avant son départ en vacances à Hawaï. En Turquie, la justice a ordonné l'arrestation d'un chef de station de télévision et de 3 fonctionnaires de police accusés de terrorisme. Elle a en revanche fait libérer 8 personnes, dont un éditeur de journal ayant des liens avec Fethullah Gulen, un religieux musulman réfugié aux États-Unis. Ankara accuse ce dernier de complot pour renverser le gouvernement. Et puis, cette bonne nouvelle sur le front de la lutte contre Ebola, un soldat nigérian de l'ONU atteint d'Ebola qui avait été transporté aux Pays-Bas pour y être soigné est guéri et pourra rentrer dans son pays. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve tout de suite dans l'Amérique et vous.
have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Barack Obama et Raúl Castro ont marqué un coup spectaculaire cette semaine avec l'annonce d'un rapprochement entre leurs deux pays, les États-Unis et Cuba. L'Amérique et vous, au cœur du réchauffement entre Washington et la Havane. Bonsoir, nous sommes ensemble pour 25 minutes de grande histoire.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
De l'Asie à l'Amérique latine, on parle de décisions historiques, de gestes courageux et même de fin de la guerre froide. La normalisation des relations diplomatiques avec l'ouverture prochaine d'ambassades à La Havane et à Washington. En attendant, la partie la plus difficile, la levée de l'embargo, vient mettre fin à plus d'un demi-siècle d'isolement de Cuba. Retour sur un discours qui pourrait avoir changé la face du monde, Lionel Gaïma.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years.
Prenant la parole ce mercredi à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961.
Le président Obama dit qu'il a demandé au secrétaire d'État John Kerry d'entamer immédiatement des discussions sur la normalisation des relations diplomatiques avec La Havane. Il y aura également une révision quant à la désignation de Cuba comme une nation terroriste. Les voyages entre les deux pays seront désormais plus faciles. Et M. Obama souhaite voir une coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le président américain a toutefois souligné que son gouvernement n'abandonnera pas ses positions sur les questions de démocratie et de droits humains, deux points soulevés par les critiques de cette normalisation. Alors que Barack Obama annonçait ce changement dans la politique américaine vis-à-vis de l'unique île communiste de la Caraïbe, son homologue Raúl Castro s'adressait au peuple cubain, disant, entre autres, qu'il était temps de laisser derrière nous l'héritage de la colonisation et du communisme. M. Obama et Castro s'étaient entretenus par téléphone mardi, mais Fidel Castro, le leader emblématique de la révolution cubaine et grand frère de l'actuel président, n'a pas pris part aux discussions, a déclaré un responsable cité par l'AFP. A signalé que le pape François jouait un rôle crucial dans le rapprochement entre les deux pays, ce pour lequel les deux leaders l'ont remercié. Les États-Unis et Cuba, qui séparaient seulement par les 150 km du détroit de Floride, n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Vivement critiqué à Cuba, l'embargo américain maintenu depuis 1962 est condamné chaque année aux Nations Unies à une écrasante majorité.
Historique donc le réchauffement entre Washington et La Havane. Toutefois, la question de la levée de l'embargo américain sur Cuba reste en suspens, puisqu'il faudra l'aval du Congrès américain. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint Maxime Larrivé. Il est chercheur en relations internationales, c'est à l'Université de Miami.
L'annonce, je pense qu'elle devait arriver un jour ou l'autre, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu un changement qui est apparu à partir de l'arrivée de président Obama, hein, et à peu près en 2008. Et puis c'est vrai qu'à partir de 2008 aussi, il y a un changement des relations entre l'Union européenne et Cuba. Et comme il l'a dit dans son discours, président Obama, les États-Unis sont les seuls à avoir un embargo avec Cuba quand la plupart des pays du monde ont des relations bilatérales avec Cuba. Donc du coup, c'est vrai que d'un point de vue domestique, l'arrivée de président Obama et de son équipe a peut-être amené à un changement des relations, comme on l'a vu, mais aussi au niveau international où il y a eu un changement des relations entre, en tout cas, l'Union européenne. Les 28 membres de l'Union européenne et Cuba. Donc ça, c'est vrai que les deux ont vraiment joué l'un et l'autre.
Et concernant l'embargo, qui est évidemment une sanction qui a été imposée depuis 1961 par les Américains, pensez-vous que le président Obama aura la majorité au Congrès pour pouvoir lever ces sanctions?
Ça, c'est très très dur hein, de prévoir, surtout avec l'arrivée du nouveau Congrès au printemps 2015. C'est pas sûr, hein, franchement, de voir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu quand même un accord au niveau du du comité des affaires étrangères du Congrès, où il y a eu un accord bipartisan pour la libération de l'otage, enfin du prisonnier américain, et aussi, comme il parlait, de l'agent secret au Cuba, en échange des trois prisonniers en Floride. Donc c'est vrai qu'il y a eu un accord bipartisan, mais c'est pas forcément très sûr hein, quand on voit le sénateur de Floride, républicain Marco Rubio, qui lui, déjà, est très actif en essayant de limiter ou en essayant de vraiment critiquer la politique d'Obama. Et donc lui, il va sûrement monter en puissance et essayer de faire en sorte que le Congrès ne change pas sa position.
Le poids politique des Américains d'origine cubaine est-il toujours aussi important en Floride ?
Il est extrêmement important, mais il est en train de changer. Il y a un changement au niveau des générations qui est en train de changer vraiment la vision des relations avec Cuba. Donc là, je regardais des sondages qui ont été faits cet été. 68% des personnes, donc cuba-américains, étaient en faveur de restaurer les relations diplomatiques avec Cuba. Au sein de ces 68%, donc les personnes qui étaient inscrites aux listes électorales, donc principalement des personnes plus âgées, eux, ils étaient à 51% contre, en fait, la fin de l'embargo. Et 90%, par contre, eux, voulaient vraiment restaurer vraiment les relations diplomatiques. Et en tout cas, 71% disaient que l'embargo ne marchait pas, ou en tout cas n'avait pas forcément des effets très positifs. Donc ça, c'était cet été 2014, fait à l'Université de Floride, par l'Université de Floride. Et puis on l'a bien vu hein, avec les dernières élections en Floride, que les Cubains américains ne votent plus forcément autant pour le Parti républicain qu'avant. Donc il y a vraiment un changement qui a lieu en Floride.
Le chercheur Maxime Larrivé, joint à Miami par Nicolas Pineau. Comment s'est fait le dégel et quelles sont les implications de ce nouveau pacte entre les États-Unis et Cuba? Nicolas Pineau a posé la question à Axel Gilden. Il est journaliste au magazine L'Express et spécialiste de Cuba.
Très récemment, au courant des semaines écoulées, le New York Times lui-même a fait une série d'articles qui ont été beaucoup débattus dans la communauté cubaine et cubano-américaine, qui justement appelaient à une normalisation, à la levée de l'embargo, etc. Donc il y avait d'une part, il y a ce paramètre-là, qui était un petit indice, et puis il y a aussi un autre facteur, qui est le problème vénézuélien du pétrole. Cuba sait depuis la mort d'Hugo Chavez, que la situation au Venezuela est très volatile et a besoin absolument d'avoir plusieurs fers au feu, plusieurs solutions, et des solutions qui soient des alternatives à simplement la façon dont elle a vécu ces 10 dernières, 15 dernières années, c'est-à-dire grâce au pétrole vénézuélien qui se tarit en fait d'une certaine manière.
On comprend évidemment que Washington et surtout Barack Obama tendent la main vers Cuba, mais est-ce que fondamentalement le régime des frères Castro a changé ?
Fondamentalement, non. Il s'agit toujours pour les Cubains de maintenir un contrôle absolu sur le pouvoir. Donc c'est fondamentalement un régime totalitaire, autoritaire, avec le contrôle de la presse, avec le contrôle total des élections, de la justice, etc. etc. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment changé. Mais enfin, on peut exercer ce type de pouvoir de nombreuses façons, et le cas, l'exemple chinois, l'exemple vietnamien, l'exemple russe le montre. Donc s'ouvrir économiquement n'est pas nécessairement un problème. Recevoir des touristes européens, il y en a 2 millions par an qui viennent, et des Canadiens sur le sol, n'implique pas que le régime change. Et de la même manière, demain, faire venir des capitaux américains ou des touristes américains n'implique pas que le régime s'assouplisse particulièrement.
Est-ce qu'il y a un consensus au sein du régime cubain concernant ce rapprochement avec Washington ?
Ça, j'en sais rien. Le régime cubain est très opaque et très fermé. Il ne s'agit pas de donner les clés du Palacio de la Revolución, le siège du gouvernement cubain, aux Américains. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de retrouver de l'oxygène économique. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Il faut préserver ce qu'ils appellent les acquis de la Révolution, sans rien lâcher. Je pense qu'il y a un consensus pour faire se perpétuer le régime. Ça, je pense que oui, c'est du bon sens et de la très habile politique de la part des Cubains, mais il ne faut pas non plus attendre à ce qu'il y ait demain des élections libres ou ce genre de choses, pas du tout. Le régime n'est pas dans une position de fragilité non plus.
On comprend évidemment concernant la levée de l'embargo, il faudra passer absolument par le Congrès américain. Pas facile évidemment pour un président qui sera en minorité, hein, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat.
Oui, c'est bien dommage parce que ça priverait le régime cubain de son meilleur argument depuis 60 ans, à savoir tous les malheurs de Cuba sont dus à l'embargo américain. Or, Cuba aurait très bien pu, s'il avait choisi un autre système économique moins contraignant, moins rigide, développer toutes ses potentialités. Elles sont nombreuses. Il y a du nickel, il y a du sucre, bien sûr, il y a du tourisme. Et pour ce qui est des investissements, il y a eu des investissements dans le domaine touristique espagnol, européen, canadien, depuis de nombreuses années.
Éclat de voix.
Des parlementaires démocrates et républicains partisans de l'isolement du régime cubain ont déploré la décision de Barack Obama d'engager une normalisation des relations avec Cuba, mais d'autres parlementaires sont pour le rapprochement en Bagassikoura.
Le républicain Marco Rubio, sénateur de Floride, état où vivent de nombreux exilés cubains, a dénoncé la naïveté de l'initiative. Selon lui, la Maison-Blanche a tout concédé pour peu de choses. Le sénateur floridien a affirmé haut et fort que ce congrès ne lèvera pas l'embargo, soulignant qu'il va présider à partir de janvier la sous-commission des affaires étrangères qui devra confirmer le prochain ambassadeur américain à Cuba. John Boehner, président républicain de la Chambre, a regretté ce qu'il qualifie de concession irréfléchie à une dictature qui brutalise son peuple. Même son cloche chez le sénateur démocrate Robert Menendez, hostile à tout rapprochement avec la Havane. Par contre, trois parlementaires sont allés chercher hier l'Américain Alan Gross, libéré par Cuba après 5 ans de détention, le démocrate Patrick Leahy, le républicain Jeff Flake et un autre démocrate Chris Van Hollen. Patrick Leahy a appelé ses collègues à ne pas s'accrocher à une politique en échec, disant que le temps du changement.
Il y a aussi de nombreuses réactions au plan international à la décision historique annoncé par Barack Obama de normaliser les relations avec Cuba, Félix Yepasis Zembrou.
Le ministre des Affaires étrangères allemand, Frank-Walter Steinmeier, a salué le courage du président Obama qui, selon lui, a décidé de mettre fin à plus de 6 décennies de conflits n'ayant produit que statu quo et absence de dialogue. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se dit prêt à aider les deux pays à normaliser leurs relations. L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté en septembre, comme tous les ans, une résolution demandant la fin de l'embargo imposé à Cuba. Les présidents d'Amérique latine faisant partie du Mercosur ont salué le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis, qualifié de rectification historique par le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro. Le pape François a exprimé sa grande satisfaction pour la décision historique, selon le Saint-Siège, qui confirme la médiation personnelle du souverain pontife dans ce dossier.
L'avis du spécialiste.
Et notre invité, c'est Idriss Fall, journaliste à La Voix de l'Amérique. La longue inimitié entre les États-Unis remonte à 50 ans en arrière. Nous avons donc remonté le temps avec Idriss Fall jusqu'à aujourd'hui, avec les défis et les perspectives.
Parce qu'à l'époque, Washington a rompu ses relations diplomatiques avec la Havane. Lorsque les révolutionnaires marxistes ont décidé, eux, de prendre le camp avec l'URSS, on est donc en pleine guerre froide. Et il y a eu une tentative de débarquement d'exilés cubains soutenus par les États-Unis. C'est ça qu'on a appelé la fameuse crise de la baie des cochons. Et un an après, le président John Fitzgerald Kennedy, un an avant son assassinat, décrète un embargo commercial sur Cuba. Donc c'est parti de là-bas, c'est il y a plus de 50 ans.
Pourquoi un tel conflit n'a jamais été réglé et a pu perdurer aussi longtemps dans le temps?
Pour deux raisons. D'abord, il y a eu la continuation de la guerre froide avec Moscou. Et depuis, donc, il y a eu des tentatives d'ouverture. C'est-à-dire, si on prend sous Jimmy Carter en 1977, il a ouvert un bureau d'intérêt américain à la Havane. Il a tenté d'alléger l'embargo. N'oublions pas que c'est un démocrate. En 1995, un autre démocrate qui s'appelle Bill Clinton essaie de signer des accords migratoires. Mais l'embargo est toujours là. En 1996, il y a ce qu'on appelle le renforcement de l'embargo par la loi Helms-Burton, qui a encore été beaucoup plus renforcé par le président américain George W. Bush. Mais en 2009, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un Américain qui s'appelle Aaron Groff. Le 3 décembre, il est arrêté à Cuba. Cuba l'accuse d'espionnage, alors que lui, c'était un sous-traitant de l'agence USAID. Donc, on en était là-bas depuis 2009, négociation, et Aaron Groff est condamné à 15 ans de prison. Il y a eu de nouveaux mouvements sous les deux mandats de Barack Obama, parce que le pape Benoît XVI, qui est passé à la Havane en 2012, lui-même avait appelé, plus ou moins indirectement, à la levée de l'embargo. En 2013, il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que Barack Obama a serré la main à Raúl Castro. Et ça, c'est historique. C'était pendant l'hommage qu'on rendait à Nelson Mandela à Soweto, en Afrique du Sud. C'était une poignée de main qui n'est pas passée inaperçue. Et donc, depuis cette année, en janvier, Cuba et les États-Unis reprennent leur discussion sur la politique migratoire. Après, le secrétaire d'État John Kerry, le 17 octobre dernier, remercie Cuba ouvertement pour son aide dans la lutte contre le virus Ebola, parce que Cuba a envoyé des médecins en Afrique de l'Ouest. Ce qui était nouveau, c'est-à-dire que on ne parle même pas encore de réchauffement, mais au moins c'est quelque chose de complètement nouveau. Une poignée de main, des remerciements pour une lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Maintenant, le dernier développement en décembre, il y a eu des négociations au Canada, les bons offices du nouveau pape François. Et Washington disait, en début de ce mois, la détente, il faudrait qu'on libère donc Gross. Gross est libéré le 17 décembre, le jour où Barack Obama annonce le réchauffement des relations. Il veut ouvrir une ambassade pour lever l'embargo, la bataille n'est pas encore gagnée d'avance. Pour même aller ouvrir une ambassade à Cuba, une ambassade, il lui faut de l'argent. Et c'est le Congrès qui détient les cordons de la bourse, ce n'est pas M. Barack Obama. Pour nommer un ambassadeur, c'est le Congrès dominé par les Républicains qui va confirmer ou infirmer cet ambassadeur. Donc, je pense que c'est bien d'avoir eu le courage politique de le faire, mais est-ce que ça aura réellement lieu? On le saura là, dès le mois de janvier, quand le nouveau Congrès va entrer en fonction.
Alors, quelle est la différence dans la vision des démocrates et des républicains, puisque les républicains ne sont pas contents que Barack Obama ait signé cette amnistie?
Justement, c'est là-bas où c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que parmi les gens qui sont partis chercher Alan Gross à la Havane, il y avait un représentant républicain. C'est-à-dire que par rapport au réchauffement, à l'intérieur du camp républicain, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais aussi à l'intérieur du camp démocrate, à l'intérieur du parti de Barack Obama, il y a des gens qui sont absolument contre, comme Menendez, là, le sénateur. Donc, l'affaire n'est pas encore gagnée d'avance. Maintenant, est-ce que ce jeu-là va faire que peut-être au plan politique, les gens arriveront à se mettre d'accord? Ça, je ne saurais le prédire. C'est me demander de lire dans une boule de cristal.
Alors, vous, en tant que journaliste, la Chine est devenue le premier marché du monde, avec la première économie notamment. Barack Obama a signé l'armistice avec la Chine récemment. Il a juré de travailler ensemble avec la Chine. Aujourd'hui, c'est Cuba. Est-ce que nous allons vers ce monde multipolaire dont on a tant rêvé?
Non, il faut dire que Barack Obama lui-même, il a dit on travaillait avec l'Union soviétique, qui est un pays communiste. Ce qui est vrai, même s'il travaillait tout en se donnant des coups bas là pendant la guerre froide. Il a dit, mais on travaille avec la Chine, qui est un pays communiste. La Chine, ce n'est pas un pays très, très démocratique. Mais quand même, c'est une puissance économique. C'est plus d'un milliard de personnes. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc, sa logique, c'est mais l'embargo qu'on a mis en place ici, et il a même dit une petite phrase en espagnol en disant « Nous sommes tous des Américains », faisant allusion que Cuba, c'est la porte à côté, c'est juste en face de la Floride. Et que si tu ouvres, tu permets d'établir des relations diplomatiques avec Cuba. Mais je pense qu'il y a les télécommunications, il y a le tourisme. N'oubliez pas que Cuba, avant l'arrivée des révolutionnaires, c'était les Américains qui faisaient du business là-bas. Et dont beaucoup, maintenant, peut-être, sont revenus vivre aux États-Unis parce que c'est un régime communiste. Et il y a eu cette polarisation de tout ce lobby cubano-américain. Mais maintenant, le monde a changé. C'est-à-dire que le monde est devenu un petit village. Les histoires de droits de l'homme, là, c'est bon pour les droits de l'homiste. Mais il faut d'abord se faire de l'argent. Une bouteille de Coca-Cola, imagine-toi, tu vends 1 dollar pour 1 milliard de personnes par jour. Ça fait beaucoup d'argent en Chine. C'est pareil pour la Russie. Et ce sera pareil pour le rapprochement dans les relations avec Cuba. Il y aura des perdants. Si jamais ça a lieu, par exemple, la destination touristique favorite de beaucoup d'Américains, parce que c'est pas loin, c'est Punta Cana, là, de l'autre côté de Haïti, ou bien en Jamaïque, c'est à vol d'oiseau. Si réellement les relations sont rétablies et que les gens peuvent aller librement à Cuba, au plan financier, il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'argent à se faire.
Quel intérêt pour l'Afrique dans tout ceci ?
L'intérêt pour l'Afrique, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que, si je prends un pays comme l'Angola, pendant que l'Angola menait sa lutte d'indépendance, l'Afrique du Sud et les États-Unis soutenaient l'UNITA de Diana Savimbi. Cuba a été presque le seul pays qui a envoyé des soldats combattre sur le terrain là-bas les partisans du capitalisme, c'est-à-dire notamment l'UNITA. Et ils ont beaucoup aidé à ce que le MPLA puisse prendre le pouvoir et gagner l'indépendance. Si à un moment donné, Robert Mugabe, qui est maintenant, dont on dit beaucoup de mal, M. Mugabe a eu l'un des systèmes sanitaires les plus développés du continent à cause de l'aide des médecins cubains. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait après ? Bon, ça c'est l'affaire de Mugabe. L'Afrique, quand même, je pense que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, très tôt dès l'indépendance, je pense qu'il y a eu une pénétration à cause d'un rapprochement culturel d'origine de la musique cubaine. Presque toute l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, tous les vieux actuels qui ont commencé à danser au début des indépendances, dansaient sur le rythme cubain. Donc il y a une historicité dans les relations de l'Afrique à Cuba. Donc,
qui pourrait reprendre de plus belle.
Ah non, mais c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que moi qui suis un peu fumeur de cigares, je peux fumer mon cigare quand je vais à Dakar ou à Abidjan parce que je peux en trouver sur place. Je ne peux pas en trouver aux États-Unis. Donc ça, c'est pour la bonne note. Tous les fumeurs de cigares rêvent qu'un jour qu'ils puissent aller à la Havane et se procurer leur fumette, quoi. Même si toi, je sais que tu es un anti-cigare à mort.
Idriss Fall, journaliste à la VOA. Vous avez dit musique, je ne vous en dis pas plus. Chérubin Dorcé l'a titillé. Idrissa Seydou Dia, qui ausculte les liens très étroits de l'Afrique avec Cuba. Une occasion de rappeler que l'Afrique a des affinités marquantes avec l'île, notamment dans le domaine de la musique.
Johnny Pacheco.
La base incontestablement africaine, le rythme.
Oui, et on sait que c'était nous, en écoutant cette musique, que cela venait d'Afrique. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi cette musique ne nous était pas étrangère. Des artistes comme Johnny Pacheco, Tito Puente ou Celia Cruz, pour ne nommer que cela, étaient tout aussi populaires en Afrique que chez eux ou aux États-Unis. On l'appelait charanga, pachanga, rumba, etc. Alors qu'ici, c'est tout simplement salsa, la même musique qui a fait danser des générations successives d'Africains avant que le rap ou le hip-hop ne prennent le dessus.
Et la musique était populaire à la radio, Idrissa, et les orchestres locaux jouaient cette musique et dans les booms et surbooms, ainsi que dans le club ou bar dancing.
Oui, et chez moi au Sénégal, avant Youssou N'Dour et son précurseur Laimboup, et si ma mémoire ne me joue pas des tours,
c'est
les
possible,
orchestres...
à un certain âge.
Parlant de cette musique, j'appartiens à une certaine génération. Les orchestres locaux reprenaient purement et simplement, pour ne pas dire singer, les chanteurs cubains à la même, jusqu'à chanter en espagnol. Je ne suis pas sûr si ce qu'ils chantaient était vraiment de l'espagnol. Vous parlez mieux que moi l'espagnol. Cher Rubin, écoutons pour voir.
Vaut mieux écouter.
Ah oui, ça c'était le Star Band de Dakar. Alors Gabi, l'espagnol, prof.
Je peux quand même vous offrir des cours à domicile.
Voilà, donc, en quelque sorte, l'Afrique a influencé sur le plan musical Cuba. Et Cuba, à son tour, a influencé l'Afrique. C'est la même musique, ce sont les mêmes origines. Voilà.
Ils sont très contents en Afrique aujourd'hui d'apprendre qu'il y a ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba.
Voilà, Chérubin Dorcil et Idrissa Seydou Dia, également journaliste à La Voix de l'Amérique. Ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous, consacrée au réchauffement entre Cuba et les États-Unis.
Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Vous retrouverez en studio la semaine prochaine Timothée Donangmaï pour la version interactive de l'Amérique et vous. Bonsoir et à bientôt.